Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Cheuseville à l'antenne. Comme d'habitude, très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Depuis la dernière émission, je me suis un petit peu évadé. En effet, je viens de rentrer d'un séjour de 3 jours en Belgique. Samedi dernier, l'Initiative humanitaire pour la région des Grands Lacs, une association fondée en Belgique par des réfugiés rwandais et des Belges d'origine rwandaise, m'avait invité à donner une conférence sur le thème Front patriotique rwandais au pouvoir depuis 30 ans, quel bilan ? La conférence s'est tenue dans une salle paroissiale de Tournai. Pour atteindre Tournai, j'avais pris un vol Bastia-Paris le matin même, avant de prendre le TGV à la gare du Nord pour Lille. Les organisateurs de l'événement m'attendaient à la gare de Lille-Flandre. Il faut dire que Lille et Tournai sont deux villes voisines, même s'il y a une frontière entre les deux, une frontière qu'on traverse sans s'en apercevoir d'ailleurs. Lille est en France, comme chacun sait, par la grâce de Louis XIV, alors que la seconde est en Belgique. Et quand il n'y a pas d'embouteillage à Lille et dans son agglomération, on peut atteindre Tournai en quelques minutes. Fidèle à mon habitude, je n'avais pas préparé de texte pour ma conférence. Je préfère la spontanéité. Je m'étais contenté de réfléchir et de préparer mentalement ce que j'avais à dire sur le thème proposé par les organisateurs. Il est vrai que le Rwanda, sa tragédie et son évolution font partie de ma vie depuis 28 années. Je peux même dire que le cours de ma vie a été altéré par ce pays, alors que rien ne me prédestinait à m'y intéresser. J'ai vécu relativement peu de temps au Rwanda, alors que je suis resté très longtemps, de nombreuses années, au Malawi ou en Ouganda. Malgré tout, le Rwanda m'a profondément marqué et il continue à occuper mon esprit des années plus tard. Bien souvent, j'ai écrit à son sujet. J'ai fait des émissions à son sujet. Et je lui ai même consacré un livre entier intitulé « Rwanda, 25 années de mensonges », publié en 2018. Je n'ai donc eu aucune difficulté à rassembler mes idées avant de m'adresser à l'auditoire qui m'attendait dans cette salle paroissiale samedi soir. Le public était constitué par une majorité de personnes d'origine rwandaise, venues de Tournai, mais aussi d'autres villes belges, Bruxelles et autres, mais aussi de France. Il y avait aussi dans l'assistance un certain nombre de Belges et de Français que je n'ose pas qualifier de souche, puisque ça a pris une connotation déplaisante dans le nouveau langage actuel, donc de Belges et de Français d'origine, dont certains n'avaient d'ailleurs jamais mis les pieds en Afrique. Mais j'ai aussi rencontré des Belges qui, eux, avaient bien sûr vécu dans l'ancien Congo belge, au Rwanda ou au Burundi. En toute modestie, je crois avoir su conquérir mon public en expliquant que l'exemple tant vanté du Rwanda post-génocide était surtout une belle vitrine, dissimulant bien mal une réalité bien peu reluisante. Oui, c'est vrai, l'Assemblée nationale et le gouvernement rwandais compte une majorité de femmes. Mais la réalité du pouvoir appartient en fait à un groupe d'hommes, des militaires, rentrés d'Ouganda avec Paul Kagame pour reconquérir le pays par le fer et par le feu. Paul Kagame est d'ailleurs le maître absolu du Rwanda depuis juillet 1994. Et toute velléité d'opposition ou de simple dissension est toujours impitoyablement réprimé. Combien de journalistes, combien d'artistes, combien d'enseignants, combien de simples citoyens ont-ils disparu depuis l'arrivée au pouvoir du FPR ? Dans le Rwanda de Paul Kagame, tous les opposants avérés ou supposés sont soit emprisonnés, soit en exil, soit morts. Tous, sauf un, ou plutôt, sauf une. La courageuse Victoire Ingabire continue, envers et contre tout, à s'opposer, malgré les 8 années qu'elle a passées en prison pour avoir tenté de se présenter à l'élection présidentielle de 2010 contre Paul Kagame. Malgré sa libération, elle est toujours emprisonnée chez elle, d'où elle ne sort que pour répondre aux convocations de la police. Son passeport ne lui a pas été rendu, et il est donc hors de question qu'elle puisse sortir du pays. C'est donc depuis sa résidence de Kigali qu'elle continue à lutter, grâce aux vidéos qu'elle enregistre et qui sont ensuite largement diffusées, clandestinement à l'intérieur des frontières et ouvertement à l'extérieur. Grâce à la magie de l'Internet et à ses amis à l'étranger, sa parole est entendue. Quelle différence entre l'intrépide Victoire Ingabire et toutes ces femmes rwandaises qui siègent au Parlement ou au gouvernement et qui ne sont que des faire-valoir du régime et de son chef. J'ai aussi expliqué à mon auditoire que la modernité et la propreté de la capitale dissimulent bien mal l'extrême pauvreté, la malnutrition et le chômage qui règnent partout ailleurs. Enfin, je me suis longuement étendu sur le chaos que le régime en place a semé depuis 30 longues années dans la région des Grands Lacs africains, en particulier en République démocratique du Congo, où l'on compte des millions de victimes, mais aussi au Burundi, en République centrafricaine et maintenant au Mozambique. Loin d'être un leader panafricaniste, comme certains le croient, Paul Kagame est devenu, avec son armée entraînée et équipée par les États-Unis, une sorte d'agent des intérêts des multinationales occidentales. Mon intervention a été suivie par de nombreuses questions et commentaires de la part du public. Un repas africain a suivi, préparé par les dames d'origine rwandaise. Ce fut donc une très belle soirée, très chaleureuse, très enrichissante pour moi, pour le nombre et la variété des personnes dont j'ai eu l'occasion de faire la connaissance. Le lendemain, je me suis accordé une journée touristique en me rendant à Gand, en Flandre. Depuis longtemps, je voulais découvrir cette ville flamande. J'avais eu l'occasion déjà de visiter Bruges, la Venise du Nord, il y a une 30aine d'années, mais je ne connaissais pas encore Gand. Je tenais, en particulier, à voir de mes yeux le célèbre retable de l'agneau mystique, œuvre des frères Van Eyck, achevé en 1432. Il se trouve dans la cathédrale Saint-Bavon de Gand. Il s'agit en fait d'un polyptyque peint sur bois et il constitue un chef-d'œuvre de la peinture des primitifs flamands. Depuis 1986, il est exposé derrière des vitres blindées dans l'ancien baptistère de la cathédrale Saint-Bavon, transformé en chambre forte du fait de vols répétés dont ce retable a été victime. L'un des panneaux, d'ailleurs, n'a jamais été retrouvé et il a été remplacé à l'identique, si je puis dire, grâce au travail effectué par un artiste des années 40, je crois. Ce retable représente une nouvelle conception de l'art dans laquelle l'idéalisation de la tradition médiévale cède la place à une observation rigoureuse de la nature et une reproduction fort habile des effets d'optique. Il est composé au total de 24 panneaux encadrés qui offrent aux spectateurs 2 scènes différentes, selon sa position ouverte ou fermée, obtenue en repliant vers l'intérieur les panneaux situés à ses extrémités. Le registre supérieur de l'intérieur du retable représente en rouge le Christ roi ou Dieu le Père, trônant entre la Vierge Marie et Saint Jean-Baptiste. À droite et à gauche de ces trois personnages, des anges chantant et jouant de la musique et, sur les panneaux extérieurs, Adam et Ève. Le registre inférieur du panneau central représente l'adoration de l'agneau de Dieu par quelques groupes de personnes absorbées dans le culte et la prière et éclairées par une colombe représentant le Saint-Esprit. Les jours de semaine, les panneaux étaient repliés, montrant l'Annonciation à Marie et le portrait des donateurs, Jost Weit et sa femme Lisbeth Borlut. Les dimanches, les vigiles de fête et jours de fête, le retable était ouvert et il dévoilait ses panneaux intérieurs. C'est donc ce chef-d'œuvre que j'ai eu le bonheur de découvrir. Mais j'ai également passé beaucoup de temps à arpenter la cathédrale Saint-Bavon elle-même, qui est très belle et qui recèle beaucoup d'autres merveilles, des tableaux et de nombreux objets d'art. J'ai également visité le Beffroi, situé au cœur de la ville de Gand, juste à côté de la cathédrale. Comme vous le savez, chers amis, les villes du nord de la France et de Belgique compte tout un beffroi qui avait été construit, édifié par les guildes, par les confréries professionnelles, si je dirais. À Gand en particulier, c'était les tisserands qui étaient très prospères. Et il marquait l'indépendance, entre guillemets, de la ville vis-à-vis des seigneurs, qu'ils soient évêques ou laïcs, si je puis dire. Et bien souvent, il a été édifié non loin de la cathédrale, représentant ainsi un autre pouvoir à côté du pouvoir religieux. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un beffroi, après tout ? C'est aussi un clocher. Et généralement, on a fait en sorte qu'il soit plus haut que les clochers de la cathédrale. Datant du XIVe siècle, ce beffroi de Gand est l'une des trois tours emblématiques du centre historique de Gand, avec les clochers de la cathédrale Saint-Bavon et de l'église Saint-Nicolas. Sa hauteur est de 95 mètres. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO dans une liste de 56 beffrois de Belgique et de France, dont il est l'un des plus importants. De son sommet, on a une vue exceptionnelle sur toute la ville. Et j'ai effectivement atteint presque le sommet. Bon, le sommet, on ne peut pas l'atteindre, mais il y a une sorte de balcon au niveau des cloches supérieures, d'où on a une vue, comme je l'ai dit, impressionnante. Alors, la montée se fait en ascenseur. Ils ont réussi à installer un ascenseur dans cet ouvrage du Moyen-Âge, et la descente doit se faire par l'escalier en colimaçon. J'ai compris la raison, c'est pour des raisons de sécurité tout simplement, parce que dans l'escalier en colimaçon très étroit, on ne peut tout simplement pas se croiser. Et le beffroi attire de très nombreux touristes. J'ai pu d'ailleurs, durant ma visite, et en particulier au sommet, écouter le délicat son du carillon, très célèbre lui aussi, du beffroi. J'ai achevé ma journée gantoise avec une agréable promenade en canot sur le Lys et l'Escaut, ainsi que sur un canal qui, tous les trois, traversent la ville et sont reliés les uns aux autres. Le lendemain, j'ai consacré la journée à une visite de Tournai, cette ville où j'avais donné la conférence le samedi. Cette ville wallonne est dominée par l'imposante cathédrale Notre-Dame, un édifice religieux de grande ancienneté situé au cœur de la ville. Elle est le seul édifice religieux de Belgique qui a été construit en tant que cathédrale. Chef-d'œuvre du gothique scaldien, ce monument est, par l'alliance harmonieuse des styles roman et gothique, par sa taille et son architecture caractéristique, un des témoins les plus impressionnants de l'art d'Occident. Elle fait partie du patrimoine majeur de Wallonie et est classée depuis l'an 2000 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Trois cathédrales successives ont été construites sur le site de la cathédrale Notre-Dame de Tournai. C'est au 5e siècle qu'une première cathédrale avait été édifiée sous l'égide de Saint-Eleuther. Je vous avoue, chers auditeurs, que c'est à Tournai que j'ai découvert ce saint que je ne connaissais pas et dont j'ai vu de nombreuses représentations à l'intérieur de la cathédrale. On le représente, bien sûr, tenant dans son bras la cathédrale pour indiquer qu'il en était le fondateur. Je parlais donc de Saint-Eleuther, qui fut l'un des premiers évêques de la ville de Tournai. En 532, Saint-Médard, 14e évêque de Noyon, qui en 531 avait déplacé son siège épiscopal de Saint-Quentin à Noyon, fut élu évêque de Tournai. Il unit ainsi les deux sièges qui le resteront jusqu'en 1146, lorsque le pape Eugène III sépara de nouveau les deux diocèses. Du 9e au 11e siècle, on procéda à l'édification d'un nouveau sanctuaire qui fut malheureusement incendié à deux reprises, en 881 et en 1066, et qui fut chaque fois restauré. En 1092, l'abbaye Saint-Martin de Tournai fut fondée. C'était aussi l'année de la fin d'une grande peste. En commémoration de cet événement, s'établit la tradition de la grande procession qui a toujours lieu chaque deuxième dimanche de septembre. Au début du XIIe siècle, le développement du culte de Notre-Dame, la prospérité de la ville et peut-être le désir de hâter la séparation des diocèses de Tournai et de Noyon poussèrent à la construction de l'actuelle cathédrale, la troisième. La construction se fit suivant une progression d'ouest en est, de la nef vers le chœur. Les charpentes furent réalisées de 1142 à 1150. En 1146, l'évêché de Tournai fut séparé de celui de Noyon par décision du pape Eugène III. Le nouvel édifice de style roman fut consacré le 9 mai 1171. En 1243, cependant, l'évêque Gauthier de Marvis entreprit la reconstruction du chœur. On procéda à la démolition de l'ancien chœur roman pour faire place au chœur gothique actuel, construit en style rayonnant. En 1255, eut lieu la dédicace de ce nouveau chœur. Celui-ci est directement inspiré de ceux d'Amiens et de Soissons. De taille impressionnante, sa longueur équivaut à celle de la nef et du transept roman réunis. Au début du XIVe siècle, on procéda à l'adjonction du porche occidental de style gothique lui aussi. Le 23 août 1566, la cathédrale fut mise à sac par les iconoclastes qui détruisirent ainsi la plus grande partie de son décor médiéval. À la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française, hélas, comme dans beaucoup d'autres endroits, s'en prit à son tour à tout le mobilier intérieur, c'est-à-dire aux autels, aux marbres, aux cloches, aux stalles, etc. Rouverte au culte à la suite du Concordat de 1801, une décoration digne de la splendeur du sanctuaire fut peu à peu reconstituée ou recréée. Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale causa également d'importants ravages. La ville de Tournai fut victime d'un intense bombardement allemand en mai 1940. La riche chapelle, paroisse Notre-Dame, de style gothique, qui datait du début du XVIe siècle et qui longeait tout le bas-côté nord de la nef romane, fut anéantie. Non reconstruite, elle a aujourd'hui disparu. Ce qui fait surtout la particularité de cette cathédrale, en tout cas c'est ce que j'en ai moi retenu, ce sont ces 5 hautes tours qui surplombent la cathédrale. Elles sont à peu près d'égale hauteur, 83 mètres. Ces tours, qui couronnent la croisée du transept, annoncent déjà l'art gothique et donnent à la cathédrale une majesté tout à fait exceptionnelle. Lorsqu'on arrive à Tournai, même lorsqu'on est encore très loin, on aperçoit dans le lointain ces 5 flèches qui dominent la ville. Je n'ai pas visité, bien sûr, que la cathédrale dans cette belle ville de Tournai. J'ai également pu admirer le beffroi, qui, paraît-il, est encore plus haut que celui de Gand. Mais je n'ai pas pu l'escalader, celui-là, car il était fermé. Il faut dire que les conditions météo ne se prêtaient guère à la visite du beffroi. Il soufflait un fort vent. Et donc, je n'ai pu l'admirer que de sa base. J'ai pu admirer également une sorte de porte fluviale qui a été construite au Moyen-Âge sur le fleuve, l'Escaut. La ville, naturellement, la ville du Moyen-Âge était entourée de remparts et percée de portes fortifiées. Et bien, vu que l'Escaut traversait la ville, il a fallu construire une porte fluviale. C'était donc une sorte de pont avec deux tours moyenâgeuses sur les deux berges, et entre les deux, donc, un pont percé de trois trous, en fait trois voûtes, qui laissaient à peine passer les bateaux. Et c'est ainsi que ce pont a d'ailleurs été surnommé le pont aux trous. Malheureusement, là aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1940, les Anglais ont fait sauter le pont pour ralentir la ruée des blindés du général Guderian, du général allemand. Et ensuite, bon, il a été reconstruit, mais en 2019, il a été à nouveau détruit, car les impératifs économiques imposaient de pouvoir laisser passer des péniches géantes sur l'Escaut. Et ces péniches géantes ne pouvaient pas passer sous la voûte centrale du pont aux trous. Il a donc été démoli, on a laissé les deux tours, et reconstruit avec deux voûtes des deux côtés et une voûte beaucoup plus haute au centre, assez large et assez haute pour laisser passer les fameuses péniches géantes. Comme quoi, parfois, les impératifs économiques ont un impact néfaste sur le patrimoine, même le patrimoine ancien comme le pont aux trous de Tournai. Je rappelle, chers amis auditeurs, que Tournai a été française pendant assez longtemps et que Louis XIV y avait installé le Parlement des Flandres, même si Tournai ne fait pas partie de la Flandre proprement dite. Et que si Louis XIV n'avait pas reperdu Tournai à la fin de la guerre, du fait de ses déboires militaires, eh bien, en fait, Tournai serait la Lille actuelle, parce que Tournai, à l'époque, était plus importante que Lille, et donc Tournai aurait été la grande métropole du nord de la France. Mais Tournai a connu un destin différent, a fait partie des Pays-Bas espagnols, puis de la Belgique à sa création. Et c'est donc aujourd'hui une ville qui n'est pas énorme. Hein, ce n'est pas une très, très grande ville, contrairement à Anvers, à Bruxelles ou à Liège. C'est une ville moyenne, agréable, mais qui... Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le contraste avec cette énorme cathédrale massive est assez impressionnant. Voilà, chers amis auditeurs et auditrices, ce que je voulais vous dire au sujet de mon cours Séjour belge. Je vous encourage, si vous avez l'occasion, à aller visiter les deux villes dont je viens de parler. Vous aurez remarqué que j'ai tenu à visiter une ville flamande, Gand, et une ville wallonne, Tournai, car la Belgique, ce sont deux entités principales, et la Belgique ne serait plus la Belgique sans la Flandre ou sans la Wallonie. La Belgique, c'est la Flandre et la Wallonie. Et j'espère que ces deux peuples, qui constituent le peuple belge, ne continueront pas encore longtemps à se tourner le dos, car ce que j'ai constaté avec tristesse, c'est que les deux moitiés du pays non seulement se tournent le dos, mais en plus s'éloignent de plus en plus. Les rares choses que les deux communautés ont encore en commun, c'est l'équipe nationale de football et le roi. C'est bien triste de voir des Belges être obligés, je parle de la nouvelle génération bien sûr, être obligés d'utiliser l'anglais pour pouvoir communiquer entre eux, puisque les Wallons ne se sont jamais donné la peine pour la plupart d'apprendre le flamand, et les Flamands ne veulent plus apprendre le français. Voilà, je termine sur cette note un peu triste, parce que pour moi la Belgique, c'est un pays très intéressant, avec un très riche patrimoine architectural, culturel, mais la Belgique, c'est la Flandre et la Wallonie. L'un ne va pas sans l'autre. Je termine cette émission en exprimant mes sincères remerciements à toutes les personnes qui m'ont accueilli chaleureusement à Tournai. Je pense en particulier à cette association qui m'avait invité pour donner cette conférence. J'ai eu un accueil vraiment exceptionnel, très chaleureux. Ils ont fait preuve d'un grand sens de l'hospitalité et j'ai été heureux de passer ces 3 jours avec eux. Je vous remercie, chers auditeurs, et je vous dis à la semaine prochaine.
Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Noorse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt. Wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in donne regelmaat en bolle oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlakke land. Wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht onze nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keilier is, wanneer de noordenwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordenwind onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de Schelde blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon, wanneer de eerste spin zijn lentewebben weeft of dampende het veld in juli zonlicht beeft, wanneer de zuidenwind er schatert door het kraan, wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan, dan juicht mijn land, mijn vlak land.